Voilà, les enfants descendent, je crois. Oui, très bien. Merci pour les moniteurs aussi. On va aussi prier pour eux. Seigneur, merci pour ce moment que les enfants aussi a passé avec en ta présence. Je te prie pour les moniteurs, monitrices, que tu les bénisses avec ces enfants, qu'ils aient aussi de la joie à écouter ta parole, l'évangile de Jésus, ce Jésus qui libère. Sois loué. Merci aussi pour ce temps de louange. Merci parce que nous avons pu t'adorer de tout notre cœur. Amen. Valérie, voilà. Merci Seigneur de pouvoir ainsi écouter ta parole ce matin, maintenant au travers de la bouche de Valérie. Je te demande de la bénir, de l'encourager, lui donner l'assurance nécessaire que tu donnes, Seigneur, merci parce que tu la fortifies, tu l'encourages. Merci pour qui elle est, au nom de Jésus. Amen.
Amen, merci. Voilà. Alors aujourd'hui, on poursuit une série de prédications autour d'un livre biblique, l'Ecclésiaste, ou Coëlette, pour ceux qui préfèrent la version hébraïque. Vous vous souvenez sans doute que déjà plusieurs prédications ont été dites ici, extrêmement riches et pertinentes. C'est un livre magnifique, il faut avoir le courage d'y aller. Je ne vais pas résumer. Au stade où on en est, nous atteignons peu à peu le sommet de la pensée de Coëlette. Le rédacteur s'apprête à terminer son œuvre magistrale et il récapitule pour nous laisser le plus important. Et nous verrons que le vieux sage a comme ça plusieurs publics cibles. Un petit peu comme moi, ce matin, devant vous. D'abord, il s'adresse aux jeunes, bien qu'il soit âgé, bien malgré sa position sociale, il s'adresse aux jeunes, il a quelque chose à leur dire. Et ensuite, il s'adresse aux personnes âgées. Je voulais dire aux vieux, mais non, aux personnes âgées. Ce qu'il dit aux jeunes, on verra, n'a rien de démodé, rien de culpabilisant, moralisant. Au contraire, il a quelque chose pour nous aujourd'hui. Et ensuite, le rédacteur décrit, on le verra, à l'aide d'images splendides, mais aussi assez étonnantes pour des esprits non sémitiques, comme on l'est à peu près tous aujourd'hui. Il décrit le dernier âge de la vie jusqu'à ses derniers instants. Il parle, par exemple, du détachement, de la rupture du cordon d'argent. Il parle d'un vase d'or qui se brise, etc., etc. Et il choisit délibérément un style poétique pour parler de cette étape de la vie. Et pour moi, c'est déjà tout un message. Comment mettre des mots sur le dernier âge de la vie et la mort. Et puis finalement, au cœur de la vie, au cœur de toute vie, quel que soit son stade, il y a cette injonction de Coëlette qui dit « Souviens-toi de ton Créateur ». Ce souvenir de son Créateur, ce souvenir d'où on vient, où on va, ben, y a pas d'âge. Et je crois que c'est parce que Jésus, l'homme d'âge mûr, savait parfaitement d'où il venait, où il allait, qu'il a atteint le but ultime de sa vie, sa résurrection d'entre les morts. Alors voilà dit brièvement le menu que je vous ai concocté pour aujourd'hui, que j'ai préparé, que je vous offre. Et en espérant que chaque âge, mais aussi chaque appétit, pourra prendre ce qui lui convient. Alors, je vais faire cette lecture du chapitre 11, 15, verset 7 jusqu'au chapitre 12, verset 7. Après, on aura encore juste une prédication qui finalisera cette série de Qohélète. Je vous invite à écouter la lecture. Peut-être que je ne sais pas peser sur le bon bouton. Non, c'est moi, je n'ai pas allumé. Voilà. Compte là-bas. Ah ouais, c'est vrai. voilà. C'est dans la version de la Tobe. Douce est la lumière. C'est un plaisir pour les yeux de voir le soleil. Si l'homme vit de nombreuses années, qu'il se réjouisse en elles toutes, mais qu'il se souvienne que les jours sombres sont nombreux, que tout ce qui vient est vanité, éphémère. Réjouis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur soit heureux au jour de ton adolescence. Marche selon les voies de ton cœur et selon la vision de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera comparaître en jugement. Éloigne de ton cœur l'affliction, écarte de ta chair le mal, car la jeunesse et l'aurore de la vie sont vanité. Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les jours mauvais et que n'arrivent les années dont tu diras « Je n'y ai aucun plaisir ». Avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre. Quand les bâtons se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand on se lève au chant de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent, alors on a peur de la montée, on a des frayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleur, que la sauterelle s'alourdit et que le fruit du caprier éclate. Alors que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité et que déjà les pleureuses rôdent dans la rue, avant que ne se détache le fil argenté et que la coupe d'or ne se brise, que la jarre ne se casse à la fontaine et qu'à la citerne la poulie ne se brise, avant que la poussière ne retourne à la terre selon ce qu'elle était et que le souffle ne retourne à Dieu qui l'avait donné. Voilà, première lecture, c'est pas qu'est-ce que ça donne. Je pense que c'est assez difficile à recevoir ça comme ça, à comprendre. Pas de panique, on va déjà pas faire une étude détaillée de ce passage. C'est pas le but de la prédication de ce matin. J'aimerais juste faire ressortir une ou deux idées pour nourrir essentiellement notre espérance. Douce est la lumière et il est bon pour les yeux de voir le soleil. Qohélète part d'une expérience positive de la vie, les jours ensoleillés, les bains de soleil, ça fait du bien. On en a tous fait l'expérience. Dans le mot « douce est la lumière » en hébreu, quand on regarde le dictionnaire, on voit qu'il y a cette idée de sucré, de douceur. « Douce est la lumière », ça, c'est bon, c'est doux. Et puis, « il est bon pour les yeux de voir le soleil » correspond aussi à une expression qu'on retrouve dans l'Ancien Testament qui veut dire « vivre ». Donc, « il est bon de vivre ». La vie est belle. Si vous êtes un peu familier et que vous avez lu l'Ecclésiaste, oui, on l'a parcouru ensemble, vous serez peut-être un peu dubitatif avec cette idée « la vie est belle » venant de l'Ecclésiaste. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'autres paroles. Par exemple, au chapitre 2, le verset 17, il nous disait « Écoutez, je déteste la vie, car je trouve mauvais ce qui se fait sous le soleil, tout est vanité et poursuite de vent. » Impressionnant. Les contradictions, et beaucoup se sont demandé si c'était le même auteur qui pouvait dire des choses aussi contradictoires. Donc on a là un des exemples parmi beaucoup d'autres qui mettent justement en évidence la manière propre de Coëlette de penser. Lui, il intègre dans sa pensée les contresens. Il intègre dans sa théologie les contradictions plutôt que de les éliminer. Mais dans l'expérience de nos vies, est-ce vraiment si décalé que ça? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau sous le soleil? Combien de fois ne disons-nous pas ou n'entendons-nous pas dans la même conversation deux affirmations contradictoires? Moi, je crois que dans mon ministère d'aumônier, je ne passe pas une journée sans entendre, par exemple, j'en ai marre de vivre. Je me sens totalement inutile, j'aimerais bien ne pas me réveiller demain matin et mourir. Ça, j'entends pratiquement tous les jours. Et puis, quelques phrases plus loin, j'entends, j'aimerais encore tellement voir la naissance d'un de mes petits ou d'un de mes arrière-petits-enfants. Je pense à une dame qui... Elle a eu un arrière-petit-enfant qui est né aux États-Unis. Elle le voit par Internet, ça la rend mais lumineuse. Et son rêve, c'est de porter ce bébé. C'est incroyable. Donc malgré tout ce qu'il a pu dire jusqu'à présent, hein, Coëlette confesse que la vie est quand même belle. Et puis, en préparant cette prédication, j'ai pu m'empêcher de penser à deux femmes qui me semblent avoir tellement bien intégré ça. Vous vous rappelez de Christine Clark? Pour ceux qui ne la connaissent pas, cette jeune femme atteinte dans sa santé et qui chantait dans les deux dernières années de sa vie, « La vie est tellement belle ». J'ai relu le CD, réécouté, « La vie est tellement belle ». Et puis, une autre femme, c'est un peu plus loin de nous, c'est Etty Hillzoom. Etty Hillzoom, ça vaut la peine de lire Etty Hillzoom. C'est une juive qui est morte à Auschwitz à l'âge de 29 ans après avoir passé dans les camps de concentration. Donc imaginez l'horreur. Elle a écrit un journal qui est tout à fait accessible. Et ce qu'elle dit, elle sait où elle va, elle dit « Je sais déjà tout et pourtant je considère cette vie belle et riche de sens à chaque instant. » Impressionnant, la vie, certes, et vanité, ça veut dire qu'autrement dit, elle est éphémère, elle passera, elle est menacée, mais elle vaut la peine. Douce est la lumière et il est bon pour les yeux de voir le soleil. Et puis, avant de parler de son poème ou de cette dernière étape de la vie, Coëlette a le souci encore de dire deux choses aux jeunes qui lui sont tellement importantes. Réjouis-toi avant que et souviens-toi avant que. La première sagesse est d'être heureux et plus vite sera le mieux. Coëlette appelle à une joie maintenant et pas à une joie reportée. La jeunesse, pour la plupart, mais c'est un temps unique dans la vie. C'est un moment où les forces sont décuplées, où on est encore un peu insouciant, c'est la fête, les découvertes, les chemins ouverts, on se demande ce qu'on pourrait faire. Eh bien, Coëlette dit que celui qui est jeune ne se prive pas de ce moment-là, mais vraiment en profite. Et en même temps, ben oui, on le sait par expérience, l'adolescence, ce n'est pas forcément non plus le temps le plus facile dans la vie. C'est un temps de crise au sens propre du terme. Il y a des choix à faire et ce n'est pas toujours rose à cause de la souffrance et du mal, mais ce n'est pas une raison pour se laisser abattre. Bonne ou mauvaise, en toutes tes années, tu peux trouver de quoi te réjouir, ne serait-ce que d'avoir su surmonter le pire. Ta première sagesse est d'être heureux, au moins plus tard, tu ne le regretteras pas. Là aussi, dans mes accompagnements avec les personnes âgées, j'entends souvent ce regret de ne pas avoir pu ont su profiter de ce temps de la jeunesse. Et puis, profiter de la jeunesse, dit l'auteur, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi, mais profiter de la jeunesse, profiter de la liberté, tout en étant conscient des cadres, des limites dans lesquelles justement cette liberté peut se vivre. Et là, j'ai pensé à une image toute simple, un poisson. Un poisson, s'il veut vivre, s'il veut être libre et vivre la vie la plus riche possible, ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Admettons qu'il décide comme ça de sortir de l'eau. Que se passe-t-il? Il va mourir. Le poisson, pour vivre vraiment, pour se mouvoir, pour grandir, nager, se reproduire, eh bien, doit rester dans son cadre, dans son lieu de vie, sans quoi il risque de mourir. Et c'est pourquoi à l'injonction « Réjouis-toi » s'ajoute « Souviens-toi ». Habituellement, c'est les personnes âgées qui vivent de leurs souvenirs. Ici, c'est à l'adolescent, au jeune, que je m'adresse, bien que catégoriser les personnes, à mon sens, c'est pas si pertinent que ça. Mais souviens-toi de quoi? Souviens-toi que la vie, que ta vie, te vient d'ailleurs. D'abord, de tes parents, qui te l'ont transmise, ce qui est déjà pas rien. Mais ensuite, souviens-toi de l'origine de ta vie, de toute vie, de son auteur, Dieu le Créateur. Créature de Dieu, tu es, toi qui es jeune. La jeunesse et vanité, ça veut dire, cette étape de la vie, elle passera. Et choisir de nourrir une relation avec le Créateur, d'en prendre soin, sera source d'une joie, d'une vraie joie. Pas d'une joie qui passera, pas d'une joie émotionnelle, artificielle, faite pour juste s'évader de la réalité, mais d'une vraie joie, d'une joie simple. Et puis, en te souvenant que tu es créature, tu te souviens de deux choses essentielles. Tu te souviens que tu es fait de poussière et de souffle. Et là, on a un écho au livre de la Genèse, où on se souvient de ce célèbre passage qui dit « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière du sol et il insuffla dans ses narines une haleine de vie. » Poussière tu es et poussière tu redeviendras, dit Coëlette. La seule réalité certaine, en fait, il nous dit, c'est que chacun de nous mourra. Et malgré la mort, et je dirais, à cause d'elle, nous sommes invités à vivre, à nous réjouir. Nous sommes invités à nous réjouir devant et en celui qui a dit être la vie même. Lui donne la vie, lui la recueille, la rassemble et recueillera encore notre dernier souffle. Alors pour résumer, le jeune est invité à se réjouir avant que et à se souvenir avant que, à se souvenir d'où il vient et où il va, de son origine et de sa fin, et se souvenir aussi que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je vous l'ai dit, Coëlette, c'est une histoire intergénérationnelle. Lui-même est probablement âgé. Il a vécu, il a expérimenté beaucoup de choses et il a ce désir de transmettre à la génération montante l'essentiel. Un peu comme des grands-parents, des arrière-grands-parents qui aiment transmettre à leurs petits. Il invite le jeune à être reconnaissant d'une part et puis, il lui dit, la jeunesse c'est pour un temps, ça ne sera pas toujours comme ça. Et il insère ce poème qu'on va relire. La vieillesse aujourd'hui, dans ce que je peux voir, c'est qu'elle fait peur. En tout cas, assez souvent peur, selon l'attitude. Moi, j'ai bien des gens qui me disent « mais j'aime en tout cas pas faire ce que tu fais ». Même des aumôniers qui me disent « ah non, moi, les personnes âgées, la mort tous les jours, je voudrais pas ». Et puis, dans notre société, vieillir, perdre certaines forces, plus être aussi performant, perdre certains rôles sociaux valorisés, comme le travail, ben, c'est pas simple pour tout le monde de trouver sa place là au milieu. Ça fait peur et c'est pourquoi je pense que les personnes âgées sont si précieuses dans notre communauté. Elles sont comme pour nous, mais des modèles, des repères. Et je vois que ce qui fait le plus peur aujourd'hui, c'est la perte de la dignité. La perte de sa tête, ça fait vraiment peur. Et l'abandon, la solitude, ben c'est vrai que c'est mon pain quotidien et ça me paraît assez clair que l'Église a un rôle à jouer parmi cette population. Le texte que nous venons de lire contient un poème admirable que je vais relire. Et l'auteur, c'est vrai, est probablement âgé et je trouve que c'est avec lucidité qu'il parle de cette étape de la vie, un peu comme si lui, il était en plein dedans. Alors, je vous le relis, juste 4 versets pour pas trop allonger. Ah, c'était pas ce bout-là que j'avais envie de vous lire. Voilà. Avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent, trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre. Quand les bâtons se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand on se lève au chant de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent. Je disais, le poème, à mon sens, qu'il ait mis là un poème pour décrire cette étape de la vie me semble déjà très fort, parce que comment préserver le mieux la pudeur de cette étape de la vie. L'autre avantage, c'est que ça donne une liberté au lecteur. Là, il joue clairement sur plusieurs niveaux, registres, symboles, jeux de mots. Et puis, avec des images, bah, ça permet à l'auteur de dire les choses avec lucidité, au fond, sans que ça choque trop comme ça. Donc, au fait, il peut décrire sans phare la réalité du vieillissement, une réalité qui nous concerne tous à un moment donné ou un autre si on a le cadeau des années. Alors, la vieillesse, nous dit le sage, est comme un hiver proche oriental. Les nuages reviennent après la pluie et la pluie après les nuages. La lune, la lumière, les étoiles s'assombrissent peu à peu. Et la vieillesse est aussi comme une maison abandonnée. Les gardiens ne remplissent plus leurs fonctions et la porte reste fermée sur la rue. Dans mes lectures, je suis tombée sur un targoum de Coëlette. Et le targoum, je vais expliquer ce que c'est, il s'est risqué à une interprétation que j'avais envie de vous faire part. Alors, les targoums, qu'est-ce que c'est et pourquoi cet éclairage est important? Enfin, important, peut nous ouvrir à une interprétation rabbinique. Alors, les targoums, c'est simplement des traductions araméennes de la Bible hébraïque. L'hébreu, bah, c'est une langue sacrée, mais il faut savoir qu'au temps de Néhémie, déjà plusieurs siècles avant Jésus-Christ, on trouve même ça dans la Bible, mais les gens, ils ne savent plus l'hébreu. Donc on fait la lecture, mais ils ne comprennent plus. C'est un peu comme si on lisait la Bible en latin, puis personne ne comprend. Et puis, il y a là un scribe, donc un spécialiste des Écritures, qui traduit la Bible en araméen pour le peuple. Mais seulement, le scribe, il ne fait pas que traduire, il interprète, parce qu'il a le souci que son public juste comprenne de quoi on parle. Et à l'époque de Jésus, les principaux targoums sont fixés. Et pour nous, l'intérêt, c'est de voir comment, à l'époque de Jésus, on pouvait comprendre les textes bibliques. Par exemple, comment les images du vieillissement qu'on a là, étaient comprises à l'époque de Jésus. C'est ça, le sens du targoum. Alors, je vous ai juste donné 4 versets. C'est un petit peu... Voilà, ils osent y aller dans l'interprétation. J'espère que ça ne vous choquera pas trop. Alors, je vous lis juste un verset là, en français, mais c'est la traduction de l'hébreu. Avant que ne s'assombrissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages ne reviennent, puis la pluie, le Targoum dit, avant que soit changé l'éclat glorieux de ton visage, comparable au soleil, avant que ne se ternisse la lumière de tes yeux, avant que s'assombrisse le lustre de tes joues, avant que s'obscurcissent tes yeux comparables à des étoiles, les cernes de tes yeux seront perlées de larmes comme des nuages après la pluie. Le verset 3. Au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où s'arrêtent celles qui meulent trop peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la fenêtre, le Targoum dit, le jour où tes genoux trembleront, où tes bras s'entrechoqueront, que les dents de ta bouche seront usées au point de ne pas pouvoir mâcher la nourriture, et que seront obscurcis tes yeux qui regardent par les fenêtres de la tête. Il n'y avait pas tous les soins qu'il y a aujourd'hui. Quand les bâtons se ferment sur la rue, tandis que tombe la voix de la meule, quand on se lève au couchon de l'oiseau et que les vocalises s'éteignent, tes pieds seront trop fatigués pour sortir dans la rue, le goût de la nourriture t'abandonnera, tu seras tiré de ton sommeil par le son léger d'un oiseau. Les personnages disent qu'elles ont un sommeil bien plus léger, comme par le bruit des voleurs rôdant dans la nuit. Tes lèvres seront trop hésitantes pour qu'elles puissent dire un chant. Voilà, on aurait pu faire tout long, mais voilà. C'était l'idée de dire qu'à chaque époque, il a fallu traduire et il a fallu interpréter pour que les gens puissent comprendre. Il a fallu prendre ce risque. Et à chaque époque, c'est ce qu'on fait. Quand on prêche, c'est aussi ce qu'on fait. On prend des risques d'interpréter. Ce passage aborde aussi la question de la mort et je vais terminer par là en évoquant la résurrection et aussi mon ministère parmi la population et les mourants parce qu'eux m'apprennent. C'est eux qui m'apprennent comment être avec eux en fait. Dans la pensée de l'Ecclésiaste, il n'y a pas cette idée d'une vie au-delà de la mort. Il n'y a pas cette idée-là. D'ailleurs, le projet de l'Ecclésiaste, ce n'est pas ça, c'est juste de voir qu'est-ce qui se passe sous le soleil. Ça, c'est son projet. Mais il ne spécule pas dans une vie au-delà de la mort. Pour lui seul, la ruach, le souffle, rejoint Dieu. Et je l'ai dit, Dieu sait de quoi nous sommes faits, de souffle et de poussière. Et il ne le sait pas. Pas seulement, il endosse cette condition de souffle et de poussière. Et ça change tout que Dieu endosse la condition humaine, la vie, son sens, ses joies, ses absurdités, la mort même. Dieu lui-même les a assumées sans tricherie, sans évitement, sans fuite. Vous imaginez bien que Jésus aurait eu la force, suffisamment de force pour éviter la souffrance et la mort. Au contraire, sa force, ça a été de ne pas l'éviter. Et une personne âgée me disait un jour, en substance comme ça, mais Jésus n'a pas vieilli. Il ne sait pas du tout de quoi on parle. J'étais là, ah ouais, c'est vrai, j'avais jamais pensé. Mais lui aussi a été défiguré.
lui aussi a été maltraité. Lui aussi a été abandonné au moment où il aurait eu le plus besoin de ses amis, au moment de son agonie. Toutes des réalités cruellement encore présentes de nos jours, juste là où je travaille, à quelques pas d'ici. Jésus n'a pas vieilli, oui, mais lui a vécu la souffrance humaine, psychique, spirituelle, la mort violente aussi. Et il faut le dire avec autant d'énergie, si ce n'est plus, que son chemin ne s'est pas arrêté à l'abandon. Son chemin ne s'est pas arrêté à la maltraitance, à la solitude, à la mort. Pâques, justement, nous a redit cette incroyable, cette inimaginable traversée de la mort vers la vie. Et aujourd'hui, dans notre société, le grand âge fait parfois peur, même souvent, mais je crois que Pâques, que la mort et la résurrection de Jésus ouvrent un espace, ouvrent un passage, et par là permet justement un autre regard sur la fin de la vie. Et on l'a dit ici, cette citation de Bernanos qui me semble bien dire ce que les personnes âgées nous apprennent et qu'elles vivent. Pour être prêt à espérer dans ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Pour être prêt à espérer de ce qui ne trompe pas, il faut d'abord désespérer de tout ce qui trompe. Et pour faire court, le grand âge, me semble-t-il, en tout cas dans ce que je vis dans mon ministère, est aussi une période féconde de la vie où compétition, course à la performance au profit, maintes fois formulée par l'Ecclésiaste, laisse place et ouvre, par la grâce de Dieu, pas de manière magique, mais par la grâce de Dieu, ouvre à d'autres dimensions de la vie tout aussi dignes et humaines. Et par exemple, des relations d'une qualité faite de simplicité, de gratuité, d'authenticité. Vous savez, quand les couches de vernis partent, on vit un peu d'autres types de relations. Quand on a laissé certaines choses de côté, il y a de la place pour une espérance qui ne trompe pas. Et qui nous transforme. Et cette espérance, à mon sens, dépasse les catégories d'âge. Dans nos circonstances, chacun à nos étapes de vie, nous pouvons laisser cette espérance nous mouvoir, nous transformer, nous illuminer. Qu'on soit un enfant, qu'on soit un adolescent, un jeune adulte, une personne âgée, il n'y a pas d'âge pour se réjouir de la vie. Pour se réjouir de toutes les bonnes choses de la vie et reconnaître par là la main du Créateur. Et puis, il n'y a pas d'âge pour se souvenir de qui nous sommes. Créatures de Dieu dont le sens et la finalité ultime lui appartiennent. La vie est tellement belle à la lumière de celui qui est vraiment ressuscité. Amen.